Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 13h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, encore une journée caniculaire ce vendredi dans une large partie du pays, avant une baisse des températures attendue ce week-end. 75 départements restent placés en vigilance orange. Une canicule qui accentue la sécheresse dans le sud-ouest. Un nouvel incendie dans les Landes a déjà parcouru 1100 hectares ce matin. Plus de 500 personnes ont été évacuées. En Afghanistan, il y a 5 ans, les talibans s'emparaient de la capitale Kaboul et reprenaient le contrôle du pouvoir. Quel est l'état du pays aujourd'hui? On y revient dans notre édition. Encore une journée caniculaire ce vendredi dans une large partie du pays, avant une baisse des températures attendue ce week-end. 75 départements restent placés en vigilance orange et au moins 150 millions de personnes en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, devraient connaître des températures supérieures à 35 degrés à un moment de la journée. Un chiffre en hausse par rapport à hier. Une canicule qui accentue la sécheresse dans le sud-ouest, un nouvel incendie dans les Landes a déjà parcouru 1100 hectares ce matin et a entraîné l'évacuation de plus de 500 personnes sans provoquer de dégâts matériels majeurs. Je vous laisse écouter Gilles Clavre, le préfet du département.
Ça fait 1100 hectares brûlés à cette heure où on est monté assez fort en capacité côté sapeurs-pompiers à 500 pompiers qui luttent actuellement pied à pied toute la nuit. Bon. Une cinquantaine de gendarmes donc, qui ont fait les opérations d'évacuation qui sont déroulées à peu près jusqu'à 1h du matin environ. Colonel, 525 personnes évacuées dans le calme, essentiellement vers Sabre, avec des capacités qui sont suffisantes. On a encore des places supplémentaires disponibles, donc on peut voir venir.
Gilles Clavre, le préfet des Landes. Et un hélicoptère bombardier d'eau prêté par l'Australie, capable de transporter près de 2 fois plus d'eau qu'un Canadair, a été utilisé pour la première fois aujourd'hui dans les Landes pour lutter contre cet incendie. L'adolescent mis en examen dans l'enquête sur l'incendie qui a provoqué en juillet la mort de 2 sapeurs-pompiers près de l'aéroport de Bordeaux à Mérignac a reconnu avoir jeté un mégot de cigarette sur le lieu de départ du feu, selon le parquet. Le gouvernement réfléchit à des prêts sécheresse pour permettre aux agriculteurs de faire la jonction avec les prochaines productions lorsqu'ils ont perdu le fruit de leur travail, a annoncé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Elle était invitée ce matin chez nos confrères de RMC.
On ne peut pas ne pas être aux côtés des agriculteurs par des aides d'urgence. C'est pourquoi je vais, dans les jours qui viennent, annoncer un plan, un volume d'aide qui sera à la main des préfets dans chaque département pour aider les agriculteurs qui ont des difficultés majeures de trésorerie, pour leur permettre de remettre en production, parce que c'est très important de travailler à la prochaine campagne. Je vais faire évidemment doter, armer puissamment l'indemnité de solidarité nationale pour tous ceux qui ne peuvent pas être assurés par les dispositifs classiques. Nous réfléchissons à un prêt sécheresse pour pouvoir faire la jonction avec les prochaines productions. Et puis, lors du prochain budget, nous aurons probablement des propositions à faire en matière de nouvelles mesures fiscales. Il faut travailler l'avenir, mais on n'a pas attendu cette crise majeure pour le faire. Moi, je travaille inlassablement à la transition. La transition, c'est permettre aux agriculteurs d'accéder à l'eau. C'est le sens de la loi d'urgence.
Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Dans l'actualité, au Moyen-Orient maintenant, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a menacé l'Iran d'un isolement économique comme le monde n'en a jamais vu, je cite. Nouveau signe donc d'un durcissement de Washington qui promettait pourtant début août un accord imminent pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Et les Émirats arabes unis ont condamné une attaque contre 2 navires ADNOC qui ont franchi le détroit d'Ormuz et accusent les gardiens de la révolution iranien d'actes de piraterie. Direction maintenant le Liban. Le Parlement a voté mercredi une vaste loi d'amnistie générale, une première depuis 1991 après la fin de la guerre civile. Cette loi devrait permettre à des milliers de prisonniers et de personnes recherchées par la justice. Que prévoit concrètement cette nouvelle législation? Les précisions avec vous, Inès Gilles.
Et oui, les autorités libanaises n'ont pas précisé dans l'immédiat combien de personnes étaient concernées, mais on sait que cette loi prévoit de réduire les peines des est condamné à mort et à la réclusion criminelle à perpétuité, à une dizaine d'années de détention effective. Elle prévoit également la libération des prisonniers incarcérés depuis plus de 12 ans dans l'attente d'un jugement. Et enfin, elle devrait permettre la libération anticipée ou immédiate de plusieurs dizaines de détenus islamistes. L'Amnesty générale polarise le débat politique depuis des années. Donc les députés à l'initiative de la loi l'ont justifié par la surpopulation carcérale. Selon un rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la surpopulation atteignait 300% en 2025. Après le vote de la loi, des célébrations ont eu lieu à Tripoli, grande ville à majorité sunnite du Nord. Mais cette loi nourrit aussi l'espoir dans d'autres communautés au Liban. Des proches de milliers de détenus et fugitifs originaires de Baalbek et du Hermel, région d'influence du Hezbollah chiite, se sont mobilisés dans l'espoir que la loi inclut des crimes liés au trafic de stupéfiants et au vol de véhicules pour lesquels ils sont poursuivis. De leur côté, des partis chrétiens ont réclamé l'amnistie pour d'anciens membres de l'armée du Liban Sud. Cette ancienne milice alliée à Israël était active à partir des années 1980 dans la région du Sud-Liban, alors sous occupation israélienne. Amnistie aussi pour des habitants ayant fui vers Israël après son retrait du Liban. Après la fin de la guerre civile, une loi d'amnistie avait été votée pour les crimes politiques commis pendant le conflit, mais sans s'accompagner d'un processus de réconciliation ni de justice pour les victimes.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. En Afghanistan, il y a 5 ans, le 15 août 2021, les talibans s'emparaient de la capitale, Kaboul, et reprenaient le contrôle du pouvoir. Depuis, le pays est au ban de la communauté internationale et continue de s'enfoncer dans une crise humanitaire. Les femmes et les filles afghanes sont plus que jamais persécutées. La journaliste Élise Blanchard, auteure de « Dans la maison d'un taliban », se rend depuis plusieurs années dans ce pays. On l'écoute.
Il y a encore des emplois pour certaines femmes, mais c'est très limité. Notamment, il y a encore des femmes qui ont des business, il y a encore des femmes qui travaillent à l'aéroport, il y a encore des femmes qui travaillent dans le médical, mais il y a beaucoup de restrictions sur comment elles le font. Moi, ce qui me brise le plus le cœur, c'est qu'il y a une crise de dépression et sur la santé mentale des filles qui ne peuvent plus aller à l'école. Enfin, nous, c'est inimaginable. Si à leur âge, on nous avait dit d'un coup, ton avenir, c'est fini. Pas d'études, tous tes rêves, tu les laisses tomber. Et donc, t'as beaucoup plus de chances d'être mariée jeune et d'avoir une vie de femme au foyer. Enfin, c'est inimaginable la douleur que ça donne. Mais j'ai aussi remarqué qu'elles ont une force incroyable à essayer de continuer à vivre, à trouver un moyen de travailler en tant que prof dans une école privée pour le niveau primaire. Moi, ce qui m'a frappée vraiment, c'est la disparition des femmes de l'espace public. Et l'éducation, je ne peux pas assez le répéter parce que pour moi, c'est un drame. Après, il faut se rappeler qu'en Afghanistan, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans les campagnes où les filles n'allaient pas à l'école et surtout pas dans le secondaire. Où pour elles, ce qui a changé, c'est évidemment la fin de la guerre, la fin des frappes aériennes, la fin de la peur, la fin du front. Ça ne veut pas dire que le changement est bon pour elles. Mais voilà, il faut se rappeler qu'il y a toutes ces réalités en Afghanistan, que ce n'est pas monolithique. Ce qui a changé beaucoup aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec les coupes de fonds américains, le soutien humanitaire au pays est tombé. C'est le monde entier, l'Europe, qui aussi ont vraiment diminué leur soutien à l'Afghanistan. Et ça a eu un énorme impact sur les femmes. Par exemple, j'ai fait un gros reportage l'an dernier où c'était sur le fait que dans certaines zones reculées, à cause des fermetures de cliniques, à cause des coupes de fonds américains, les femmes n'avaient plus accès à des sages-femmes dans des lieux reculés. Donc en gros, elles recommençaient à donner naissance chez elles, ce qui est un retour en arrière absolument horrible.
Élise Blanchard, journaliste au micro d'Inès Gilles. Et ce soir, après le flash de 18h, l'émission Grand Angle sera consacrée à l'Afghanistan avec une interview d'Oriane Zera, journaliste qui a travaillé plusieurs années en Afghanistan. Retour en France, une élue de la France insoumise à Rennes, Régine Comocoli, est victime depuis plusieurs mois d'harcèlement moral, d'injures racistes et de dégradations. Les dernières en date ayant visé sa voiture, a annoncé le parquet de Rennes, qui précise qu'une procédure est en cours. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.